aujourd'hui, nous allons parler du musée d'ethnographie, car depuis le 1er février, le Neuchâtelois Jacques Hénard a pris la direction du musée d'ethnographie de Genève suite à la sollicitation de M. Muni, le responsable du département des affaires culturelles. Et Jacques Hénard est là pour 3 ans. Après le nom des Genevois à un nouveau musée d'ethnographie en 2001, il semble que la sollicitation soit claire. Il s'agit de faire aimer l'ethnographie aux Genevois et peut-être de les préparer à accepter la construction d'un bâtiment adapté. Jacques Hénard, bonjour.
Bonjour.
Vous écriviez dans un ancien catalogue du musée d'ethnographie de Neuchâtel, le conservateur d'aujourd'hui, s'il n'a pas perdu son aura de chercheur mystérieux, de scientifique, d'expert réticent, peut néanmoins gagner un nouveau statut, celui de vedette ou celui de star. Et je crois que c'est vraiment le qualificatif qui s'applique à votre arrivée à Genève, enfin d'après ce qu'on peut lire dans tous les médias. Et il fallait vraiment un poids lourd de l'ethnologie pour pouvoir occuper un poste qui semblait un petit peu... Enfin, que les Genevois ne semblaient pas vraiment apprécier. Je parle du musée d'ethnographie, puisqu'ils l'avaient refusé en 2001.
Alors, vous savez, en étant un peu immodeste, je dirais qu'aujourd'hui, diriger un musée, que ce soit un musée d'ethnographie ou un autre musée, c'est quelque chose de complexe. Et on peut se demander si une seule personne y suffit. En effet, il faut s'occuper d'administration, il faut s'occuper de gestion du personnel, il faut s'occuper de recherche, de publication et d'exposition, et la tâche devient de plus en plus lourde. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans un musée qui était un petit musée, où j'avais 15 collaborateurs fixes et des collaborateurs ponctuels lorsque nous construisions des expositions, donc on pouvait gérer ça, disons, seul. Et ça m'a permis de construire une ligne assez précise à Neuchâtel, et je pense que encore une fois, à Genève, vu la structure même du personnel et les capacités du musée, je pense qu'une personne peut quand même reprendre en main cette institution, lui redonner une aura et lui redonner un look. Alors effectivement, le conservateur aujourd'hui, si je reprends votre définition à la lettre, qui peut devenir une star, il faut dire cette chose étonnante, et ça c'est Jean Clerc qui nous l'a raconté dans un petit article, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le paradoxe du conservateur ». Jusqu'à il y a encore quelques décennies, le conservateur c'était celui qui gardait les choses, qui gardait les objets, qui gardait le patrimoine. Et depuis un certain temps, le conservateur s'est mis à regarder, c'est-à-dire qu'il utilise ses objets pour en faire des expositions, pour les présenter au public, et s'il a un certain style, s'il a une certaine qualité de construction d'exposition, il peut devenir quelqu'un de remarqué et il peut imposer à son institution une ligne, comme tout un chacun peut imposer un look à une collection ou à une institution.
Alors, vous parliez de des différentes capacités qu'on l'on demande à un directeur de musée. Est-ce que c'est un petit peu remettre en question la formation, puisque nombre de directeurs de musée s'en plaignent de ce côté. Ils sont préparés comme des intellectuels de leur discipline, mais ils ne sont pas nécessairement préparés au management.
Alors, je pense que là, il y a quelque chose à revoir, et vous avez raison de soulever cette question. Nous allons sans doute pouvoir la résoudre ces prochains temps, puisque nos universités helvétiques ont signé les accords de Bologne et que tout l'enseignement universitaire est repensé. Nous aurons donc maintenant des bachelors et des masters, et des masters en muséologie vont s'installer, notamment à Neuchâtel, peut-être à Lausanne, pourquoi pas à Genève. Et ça sera l'occasion justement, non seulement de donner cette formation universitaire et de chercheurs ou conservateurs ou futurs conservateurs de musées, mais de leur apprendre en même temps et parallèlement la gestion, le management, le marketing, ou en tout cas savoir comment constituer les équipes pour pouvoir déléguer ces recherches et ces travaux à faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend peut-être mal à l'université, c'est d'apprendre à déléguer. Et je pense qu'un bon directeur, une bonne directrice, c'est une personne qui arrive à sentir les problèmes et ne pas tout résoudre elle-même ou soi-même, mais justement de trouver les équipes et de savoir déléguer, encore une fois, des tâches. Et ça, je crois que c'est ça la bonne direction. C'est s'entourer de compétences et une délégation.
Il y a toujours, non pas des conflits, mais des problèmes qui interviennent à la suite des tâches qui vous sont imposées, c'est-à-dire l'administratif et l'artistique. Vous seriez plutôt pour que ce soit un directeur bien formé qui puisse assumer ces deux tâches.
Oui, parce qu'il est incontestablement que celui qui gère l'argent, il peut dans une institution prendre le pouvoir. Quelles que soient ses capacités et ses talents, j'entends. Et il serait préférable, en effet, qu'une seule personne soit à la tête d'une institution. Et moi, j'ai toujours eu quelques réticences quant aux institutions bicéphales, parce que les conflits sont là. Et c'est véritablement ça aussi, gérer une institution, c'est d'essayer de pressentir les problèmes de hiérarchie, les problèmes de pouvoir. Et construire un bon organigramme, c'est une tâche qui m'attend actuellement à Genève, parce que je dois le repenser, et c'est extrêmement délicat, donc il faut savoir écouter, il faut savoir entendre, il faut savoir comprendre, pour poser les bonnes personnes aux bons endroits, sans qu'il y ait de conflits, de querelles. Et c'est ça, un bon directeur, c'est celui qui peut faire passer véritablement cette information. Et vous savez, c'est aussi l'information qui est quelque chose de capital, parce que le pouvoir, c'est l'information. Un directeur qui informe mal, il se crée des ennuis, et ça, c'est une de mes capacités, je crois. Je sais écouter et je sais donner l'information nécessaire, je crois. On fait tous des erreurs, mais c'est une de mes qualités.
Donc, pas de directeur administratif ou financier, mais plutôt une tête capable de gérer ce management, mais que la tête soit artistique.
Que la tête soit artistique, bien entendu. Parce que, vous le savez, moi j'ai toujours dit, les institutions ne sont que ce que sont leur directeur ou leur directrice. Et ça, c'est vrai. Si vous avez un mauvais directeur, vous avez une mauvaise institution, des expositions qui ne sont pas très intéressantes. Il faut donner le souffle, il faut donner l'envie de faire. Et à Genève, je crois que c'est quelque chose qui me séduit, parce qu'il y a une équipe importante, il y a des gens qui sont talentueux, et il s'agit simplement de leur donner l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie de faire savoir ce qu'ils connaissent. Et je crois que là, on va former un staff efficace, et j'espère que très prochainement, le musée d'ethnographie de Genève retrouvera son aura et aura une position intéressante sur le plan européen, et pourquoi pas, soyons toujours immodestes, sur le plan international.
Alors, à lire aussi ce que l'on voit, enfin ce que l'on peut lire dans la plupart des médias, on parle toujours d'un statut pratiquement, enfin quasi moribond pour l'ethnographie à Genève. Est-ce que c'est un cri d'alarme pour essayer de motiver les Genevois pour l'achat d'un nouveau bâtiment, ou est-ce que comment on a pu en arriver à cet état ?
Alors écoutez, je ne peux pas me prononcer sur tout l'historique qui nous amène à la situation d'aujourd'hui, mais ce que je vois, parce que je connaissais quand même le musée, j'ai connu les anciens directeurs et une partie des collaborateurs tout au cours de la vie du musée d'ethnographie de Genève, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, il faut que nous redonnions aux Genevois le musée d'ethnographie, parce que c'est leur institution, c'est leur patrimoine, et il faut réapprendre aux Genevois à visiter ce haut lieu, parce que ce lieu, il a été fait par des gens, des collectionneurs genevois, par des conservateurs d'ici, avec des talents, et je crois qu'il suffit d'un petit déclic, d'une petite stratégie pour ramener les gens là et comprendre la qualité de ces collections, la qualité de cette institution qui s'est construite pendant plus de 100 ans. Et ça, c'est une de mes tâches premières, c'est de redire aux Genevois, venez à Karl Vogt, visiter votre musée, visiter vos collections, réapprendre ce qui fait quelque part aussi l'identité des Genevois, parce qu'on comprend pourquoi les gens voyageaient, pourquoi ils avaient des envies sur tel ou tel objet, etc. Et en même temps, on apprend sur les autres, on apprend sur les objets, on apprend sur les collections, on apprend sur une certaine esthétique, puis on apprend la réalité, l'histoire et l'identité genevoise. Alors ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose de tentant et c'est quelque chose de fascinant. Et puis en même temps, Genève est une ville internationale. Alors il y a le local à développer et à reconstruire, et puis il y a l'international à faire fonctionner pour dire nous sommes capables de parler des autres en nous regardant nous-mêmes. Et ça, c'est le vrai jeu de l'ethnologie, hein, c'est de se penser soi-même par rapport aux autres et par rapport au discours que nous avons tenu sur les autres sociétés. Donc, vous voyez que le challenge et le défi est passionnant, parce qu'on a une histoire, des collections, des moyens, des compétences. Et je dirais tout bêtement, il suffit simplement de faire monter la mayonnaise.
Alors, la situation actuelle n'est certainement pas le résultat du mauvais travail de prédécesseurs. Comment se fait-il que la discipline qui est phare et fleuron de Neuchâtel n'ait pas suscité le même engouement à Genève? Est-ce que, par exemple, il y aurait une différente appréciation, les intérêts se porteraient ailleurs?
Je ne le pense pas. Je pense que simplement, peut-être que les structures de l'institution n'ont pas permis ou n'ont pas été telles que les directeurs ont pu donner, insuffler une ligne, encore une fois. Et vous savez, moi, quand je suis arrivé à Neuchâtel en 1980, j'étais aussi nouveau, novice dans le domaine des expositions. Et je ne sais pas, j'ai eu la chance de donner une ligne. Et tout à coup, on sait qu'il y a un certain discours, une certaine manière de regarder qui se passe dans un tel lieu. Et c'est ce qui fait tout à coup la réputation d'un musée. Alors, il y a les collections, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a véritablement la manière de construire un discours, de construire un propos. Et c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, faisons des expositions qui sont des expositions qui racontent des histoires, hein, une exposition qui raconte une histoire qui a un début et une fin, plutôt que toujours juxtaposer des objets. Alors, c'est ça. On peut faire des expositions de référence où on montre les objets les meilleurs de nos collections, mais en même temps, il faut savoir construire un discours, il faut savoir construire une histoire et savoir cerner un propos thématique sur des problèmes de société d'aujourd'hui, avec des regards, bien sûr, sur les autres, et comment les autres nous regardent, et comment nous les avons regardés. Et ça, c'est fondamentalement intéressant, parce qu'on comprend ainsi comment nos systèmes de représentation se mettent en place, quels sont nos a priori, quels sont nos stéréotypes. Et j'ai toujours dit, hein, si un bon musée fait de bonnes expositions, le visiteur qui en ressort devrait se poser des questions du type « Pourquoi est-ce que je pense comme je pense ?» N'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis sur certains sujets ou sur certaines choses ? Et quand on peut s'arrêter quelques minutes pour se poser ce genre de questions, je crois qu'on est un peu plus ouvert, un peu plus tolérant et pourquoi pas aller jusque-là un peu plus intelligent. Et je crois que c'est ça la qualité d'un bon musée d'ethnographie.
Alors ça, c'est le genre d'exposition que vous avez présenté régulièrement à Neuchâtel, mais c'est également l'exposition qui est en cours au musée d'ethnographie de Genève, qui a été montée par un de vos élèves,
absolument,
Philippe Maté, et qui illustre parfaitement vos propos, puisque son titre est « Nous autres », et c'est d'essayer de nous faire comprendre la diversité, sinon la validité de la vie différente de chacun.
Alors je suis très heureux d'arriver dans cette réouverture du musée avec une exposition de ce type, parce qu'elle correspond véritablement à mes objectifs, à ce que je crois. Et il faut dire que sous la conduite de Philippe Maté, l'équipe du musée d'ethnographie a fait un travail remarquable et cette exposition est très suivie. Les visiteurs sont là nombreux et on a une aura, j'entends, locale et internationale parce qu'on s'intéresse à nous de partout et encore récemment, les radios françaises nous ont fait parler de cette exposition. Donc ça repart et on voit bien qu'on répond à une certaine attente d'un certain public qui veut comprendre à quoi sert l'ethnographie et à quoi peut bien servir cette institution qu'est le musée d'ethnographie de Genève. Et vous voyez, on sent là les frémissements, hein, de quelque chose de possible de remettre en place et de reconstruire véritablement un beau musée quant à son contenu et quant à son discours. Et je suis très heureux de pouvoir relancer cette action dans cette institution.
Alors cette exposition, nous autres, d'abord, dès l'entrée, elle est spectaculaire. Elle utilise beaucoup le multimédia. Elle est sur un sujet qui nous touche beaucoup, puisque je crois que Philippe Maté disait à ce micro il y a quelques mois qu'on parle plus de 140 langues à Genève. Vous avez pu déjà noter un accroissement, un intérêt supplémentaire des Genevois pour cette exposition qui est dans le style de celle que vous aimez.
Oui, tout à fait. Je crois que depuis qu'elle est ouverte, plus de 12 000 personnes y sont passées. Et on voit des gens de tous bords, de tous horizons. Et ce qui est fascinant, il y a une jeunesse qui vient là, qui n'est pas seulement celle des écoles qui sont sous la conduite de leur maître, mais des jeunes qui viennent spontanément, parce que ça répond à une attente, et c'est ça, évidemment, qu'il s'agit aussi de renouveler un public et de répondre aux interrogations d'adolescents ou de jeunes gens d'aujourd'hui qui voyagent, qui ont une autre vision du monde que celle que je pouvais avoir à leur âge. Et je me dis qu'on est en train de répondre à une partie de ces attentes.
Alors là, vous allez répondre aux attentes qui sont déjà exprimées. Est-ce que vous allez aussi diriger votre effort pour former les jeunes visiteurs de demain, c'est-à-dire effectuer un effort sérieux auprès des écoles pour séduire ces jeunes visiteurs?
Alors, vous savez que le musée d'ethnographie de Genève est doté de départements et de personnes qui sont véritablement désignées pour faire une politique d'accueil des publics et d'accueil des scolaires. Et là, nous avons des programmes qui sont en cours de fabrication, mais qui étaient déjà présents auparavant, mais qu'on va développer. Et véritablement, nous allons traduire et nous allons permettre aux enfants, aux gens qui sont déjà en âge de comprendre ces problématiques, de trouver des réponses dans un encadrement extrêmement précis. Et ça, nous avons les moyens et les capacités de le faire. Donc c'est quelque chose, je réponds oui à votre interrogation.
Alors, vous disiez tout à l'heure que l'ethnographie est surtout là aussi pour nous permettre de comprendre le monde tel qu'il est. Est-ce que, disons, quelle est la place de l'esthétique, puisque j'ai lu dans un de vos derniers catalogues qu'on pouvait aussi considérer l'objet, je cite, pour s'abandonner à ce que suggère sa sensibilité, fantasmer sur les symbolismes au-delà de toute analyse stylistique. Donc, on dépasse complètement le sens de l'objet.
Tout à fait. Alors, vous savez, il y a une sorte de, entre guillemets, peut-être de querelle qui s'est installée entre les tenants d'une ethnographie qui faisait fi du bel objet, qui faisait fi de l'esthétique, et je crois que c'est dommageable. Il faut présenter les approches les plus larges possibles. Les regards sont divers. Alors, le collectionneur, évidemment, il aura envie de voir de beaux objets, pour leur esthétique, pour leur forme, pour la qualité des patines, etc. Et puis l'anthropologue d'aujourd'hui, il va faire jouer, enfin c'est ce que j'ai fait moi fréquemment, on fait jouer des objets de qualité esthétique avec des objets banals, des objets de la quotidienneté, des objets extrêmement terre-à-terre, mais dans la volonté de construire un discours et de construire une syntaxe pour exprimer quelque chose. Alors il ne faut pas catapulter ces regards en les opposant, il faut simplement offrir la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier de cela. Et c'est pourquoi nous allons faire maintenant ce que nous appelons des expositions de référence, c'est-à-dire des collections, des objets, expliquer qui les a collectés et pourquoi. Et puis en même temps, on va faire des expositions que nous appellerons des expositions de synthèse, c'est-à-dire des expositions thématiques sur un sujet d'aujourd'hui. Et donc, il faut que les espaces se démultiplient dans le musée. Il y a un troisième espace qui est souhaité aussi par l'autorité politique genevoise, c'est-à-dire essayer de trouver des espaces pour répondre à des problématiques sous la forme d'expositions ponctuelles. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, si nous avions été prêts, nous aurions attaqué le problème des caricatures de Mahomet. Hein, il faudrait qu'en quelques jours, le musée d'ethnographie, avec d'autres, la bibliothèque publique universitaire ou d'autres, soit à même de présenter quelques objets et de poser le problème. Qu'est-ce que ça veut dire représenter? Qu'est-ce que c'est qu'une interdiction? Qu'est-ce que c'est qu'une liberté? Qu'est-ce que c'est qu'une liberté d'expression? Et essayer de immédiatement de cerner. On pourrait peut-être aujourd'hui, et vous m'en donnez l'idée par ces questions, parler de la grippe aviaire. Hein? Comment nous réagissons culturellement par rapport à des poules ou des poulets ou des oiseaux qui tombent malades, par rapport à un virus qui se transmet, et quel discours nous tenons. Et je pense, et ça sera quelque chose qui arrivera par bonheur en 2007, où toutes les institutions de la ville de Genève vont se lancer sur un programme commun qui traitera justement de la catastrophe et des catastrophes. Et je pense que là, nous serons au top de l'actualité en 2007, tant au musée d'ethnographie que dans d'autres musées, pour répondre à ce type de questions, parce qu'aujourd'hui, on est à la fois atterré par les catastrophes naturelles, mais par les catastrophes humaines. Il y a toujours le problème de l'atome, du nucléaire, qui est sous-jacent, et puis voilà, les histoires de grippe aviaire, et puis le sida, etc. Et on ne sait pas encore ce qui arrivera d'ici 2007, il y aura peut-être encore d'autres événements, et nous serons peut-être à même de pouvoir essayer, non pas de résoudre ces questions, mais de poser une plage intéressante, donner un substrat pour que tout un chacun puisse s'exprimer s'exprimer, poser ses questions et recevoir des éléments de réponse.
Alors, vous me rassurez, puisque c'est le sujet d'une de nos prochaines émissions, justement au niveau des épidémies par rapport à la grippe aviaire. Et moi, j'avais demandé pour préparer cette émission les conseils d'un sociologue. Donc, j'aurais dû également m'adresser à un ethnologue, où vous pensez maintenant que ces deux, enfin, que ces disciplines vont aller ensemble, dans la mesure où elles sont toutes destinées à nous faire comprendre.
Mais bien sûr, et je crois que, et ça ce qui a été un peu dommageable ces dernières années, c'est que le musée d'ethnographie a un peu coupé ses ponts avec la recherche universitaire et l'enseignement universitaire. C'est quelque chose que nous allons remettre en place, parce que c'est urgent que le musée soit au fond, au centre d'une plaque tournante, et que tant avec les sciences naturelles qu'avec les sociologues, les psychologues, et bien sûr les gens, parce que c'est ça qui nous fascine aussi aujourd'hui, les représentants des neurosciences qui vont entrer dans notre jeu, parce qu'ils vont nous expliquer, peut-être de manière encore plus précise, comment se constituent nos systèmes de représentation, comment la cognition se met en place, et je crois que véritablement le musée d'ethnographie est un lieu exceptionnel pour capter les savoirs des uns et des autres. Et nous devons être une grande famille des sciences humaines, mais en même temps épaulés par les gens de la biologie, des sciences naturelles. Je crois que ça fait partie de cela. Et aujourd'hui, nous avons peut-être un mot qui devient un peu à la mode et qui n'est pas dit, mais on est pour la transversalité. Et c'est à ce prix-là que nos disciplines vont se révéler performantes et qu'elles seront comprises du grand public et qu'on comprendra mieux le pourquoi de l'ethnographie et partant des sciences humaines.